Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique, même si aujourd'hui, Maurice, vous allez aussi participer à toute l'émission. Bonjour Maurice.
Bonjour Caroline, j'ai ramené un petit livre.
Vous avez ramené un petit livre, absolument, parce que l'émission du jour se décline en livres. Tout au long de l'année, aux Bonnes Choses, nous évoquons des livres de cuisine, ils nous inspirent, des émissions, ils sont parfois nos outils de travail. Nous en rapportons certains chez nous pour les ranger dans notre bibliothèque ou pour suivre leurs conseils et leurs recettes. Bref, dans cette émission, les livres sont importants, ils ont une place de choix. D'où notre envie de vous proposer une petite sélection pour cette fin d'année, des livres qui ont retenu notre attention, certains même à glisser sous le sapin, pourquoi pas, en compagnie de nos invités. Déborah Dupont-Daguet, bonjour.
Bonjour Caroline.
La libraire gourmande de Paris et de Dijon, lectrice et autrice de très nombreux ouvrages. Le dernier,
Chocolat de nos rêves, qui était sorti au printemps dernier. J'étais d'ailleurs venue pour l'émission de Pâques.
Absolument. Depuis Marseille, Ézéchiel Zerra, bonjour Ézéchiel.
Bonjour Caroline.
Journaliste culinaire, ex-rédacteur en chef des pages gastronomiques de L'Express, papa de Pomelo Média, ça c'est ce que vous dites sur Instagram, auteur notamment d'un livre fameux sur Marseille, et puis un autre dont on parlera en fin d'émission, dernier avec Jean-François Mallet sur la pizza, paru chez Flammarion. Bien sûr, Maurice Acco est avec nous. Et puis, Léa Varin nous a rejoint. Léa, qui travaille aux Bonnes Choses depuis septembre. Bonjour Léa.
Bonjour.
Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Carte blanche, bien sûr. 2 ou 3 livres parus dans l'année. Variez les plaisirs. Pensez à tous les goûts et à toutes les bourses. Pensez aussi à la durée de vie des livres et à la dimension cadeau de cette fin d'année. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser une question, Déborah Dupont-Daguet, en cette fin d'année. Est-ce que, du point de vue de la librairie et du point de vue des livres de cuisine, ce fut une bonne année.
Alors, année 2025, on va dire un petit peu compliquée, avec beaucoup d'éditeurs qui, en fait, ont sorti des nouvelles éditions de livres qui étaient déjà parus, ont fait des compilations, j'ai eu envie de dire, on a des nouveautés, mais moins que les années précédentes, donc difficile de trouver vraiment le livre qui va être en pile dans toutes les librairies et qui va se vendre partout. C'est vraiment une année pour les outsiders, c'est une année aussi où les libraires vont pouvoir ressortir ce qu'on appelle du fond, c'est-à-dire des livres un peu plus anciens, donc les jeux sont vraiment ouverts pour voir qui sera le succès de cette fin d'année.
Ézéchiel Zerra, tous les ans, vous scannez à peu près 30 livres de votre choix, c'est ça que vous faites ?
Même plus, non, presque 200.
Ah oh non, c'est trop. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette année 2025 par rapport, mettons, à l'année dernière ?
Bah, ce que je constate, c'est qu'il y a, alors ça fait quelques années déjà, moins de livres de grands chefs. Il y en a quelques-uns, mais quand même moins. Beaucoup de pâtisseries, ça c'est quelque chose qu'on voit depuis pas mal d'années. Et puis l'Asie, qui fait que monter sans arrêt avec le Japon, mais d'autres pays qu'on connaît moins.
Maurice Acco, est-ce que vous lisez des livres toute l'année de cuisine ? Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que...
Oui, totalement.
Bah, est-ce que vous aimez ça ?
J'aime ça, mais j'ai un côté, une relation très cuisinier aux livres. Donc,
c'est normal, vous êtes un cuisinier.
J'ai des livres très techniques et sur des sujets très précis. Et moi, j'ai une collection de livres qui n'est pas forcément liée aux sorties, c'est plutôt lié à mon besoin. Donc, cette année, j'ai beaucoup travaillé les épices et les infusions, donc j'ai acheté au moins une vingtaine de livres sur les épices et sur les infusions de plantes et sur la cuisine, tout ce qui est naturopathie, parce qu'ils ont un grand savoir sur l'infusion et le bienfait des plantes.
Et pour votre chronique, à la fin, vous nous avez réservé un livre qui vous a aidé dans votre formation de cuisinier, ça c'est encore autre chose. On est en train de perdre Déborah Dupont, il faudrait que vous buviez un petit peu d'eau, Déborah, parce qu'en plus, je voulais vous passer la parole pour parler du premier livre que vous avez choisi pour cette fin d'année, en particulier en lien avec ce que vient de dire Ézéchiel Zerra, la pâtisserie. Bah vous avez justement choisi un livre de pâtissier, mais alors pas à mettre dans toutes les mains, c'est-à-dire que moi par exemple je saurais pas faire.
Non, là j'avoue, je tape très haut avec le livre de Benoît Charvet. Donc Benoît Charvet est le pâtissier du restaurant Paul Bocuse. rien que ça. Donc, restaurant 2 étoiles situé à côté de Lyon. Et Benoît Charvet, avant ça, il a eu un parcours brillantissime. Il a été chef pâtissier pour Sandorins à Paris, puis pour Bernard Loiseau et enfin pour Georges Blanc. Donc, on est vraiment sur un parcours extraordinaire. Et là, ce sont les desserts Bocuse. Donc, les desserts Bocuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire les desserts de grande tradition française qui étaient apportés en fin de repas avec le chariot de dessert. Donc, ça va être la Forêt Noire, ça va être le Paris-Brest, ça va être le millefeuille, ça va être la tarte au chocolat, ça va être tous ces desserts un petit peu emblématiques. Et avec en plus la touche de ce chef qui est un énorme technicien. Donc là, on est sur des desserts à la fois familiaux, mais en même temps avec cette touche du chef. Donc tout est détaillé, il y a toujours plein de petites étapes, plein de, par exemple, sa tarte au citron meringué, il va y avoir une pâte sucrée, un biscuit viennois au citron, un crémeux au citron, un petit confit de citron, une meringue italienne, une mousse au citron. Donc on est en fait sur un empilement de couches pour un résultat absolument extraordinaire. Les photos sont superbes. Et le livre n'est pas si cher puisqu'il est à 24,90€. Donc je tiens à le dire. Édité par la Maison Bocuse, puisque la Maison Bocuse a monté une maison d'édition. Donc le livre est sorti la semaine dernière. Franchement, gros coup de cœur pour cet ouvrage.
Oui, mais dites-moi, vous avez testé quelques recettes vous-même? Parce que vous êtes fine cuisinière, fine pâtissière, est-ce que vous y êtes arrivée?
Je ne m'y suis pas encore appelée parce que là, vu l'actualité à la librairie, car nous sommes à 10 jours de Noël, je n'ai absolument pas le temps, mais j'ai déjà repéré ce que je voulais faire. Il y en a plein, enfin voilà, le biscuit de Savoie, c'est clairement faisable, la mousse au chocolat, et puis même si on veut se challenger un petit peu, enfin voilà, on peut y aller. C'est très bien expliqué, donc en suivant les étapes, de toute façon, la pâtisserie, on n'a pas le choix, hein. On suit ce qu'indique la recette.
Pas à pas, étape après étape.
Exactement.
Le deuxième livre que vous avez choisi pour cette fin d'année, Déborah Dupont-Daguet, c'est un livre qui s'est vendu, je crois, comme des petits pains hier à la librairie gourmande, puisque à
je
Paris,
l'ai pas sur
puisque vous n'avez pas pu l'apporter à table, vous avez été dévalisé.
Oui, c'est un
livre de fête.
Un livre sur le champagne, donc en même temps, c'est l'actu. C'est vrai que c'est la boisson absolument phare pour les fêtes de fin d'année. Donc le livre Champagne d'Aurélie Soubiran, qui est sorti aux éditions du Chêne. Et j'ai été vraiment épatée par la complétude de ce livre qui aborde tous les aspects du champagne. Que ça soit l'histoire de la région, donc qui a quand même été une région charnière, qui a connu les guerres, les foires depuis le Moyen-Âge, toute une ébullition économique, toute une ébullition sociétale, mais aussi les aspects économiques, puisque c'est quand même une zone vraiment importante dans l'économie française. Ça traite aussi des aspects fabrication du champagne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise comme raisin, comment c'est vinifié, toutes les étapes. Il y a une iconographie puisqu'ils ont fait appel à photographes, illustrateurs, illustratrices. On a des cartes, on a des graphiques, on a des schémas. Ça se lit merveilleusement bien. Et en plus, c'est particulièrement actuel puisque les derniers rachats de maisons de champagne sont dans le livre. Enfin, vraiment, j'ai été épatée par le travail fourni.
Une réaction de part et d'autre de la salle, Maurice Sacco, Ezekiel Zera, un commentaire ou pas? Silence. Non, si, Maurice.
Non, je vais laisser Ezekiel quand même.
Non, moi, je me rappelle, Déborah parlait de Benoît Charvet, je me rappelle, il faisait des souliers, des escarpins à l'époque en sucre, je sais plus dans quelle maison il était, c'était peut-être chez Bernard Loiseau. C'était impressionnant de réalisme, donc je suis très content qu'il ait fait un nouveau livre là récemment.
Sur le Bocuse, les pâtisseries. Ben, comme vous avez la parole, Ezekiel Zera, gardez-la. Vous allez nous emmener en voyage avec un Hong Kong à la carte de Davina Chang et Ada Deschanel chez Solar.
Exactement. Alors, on a une obsession en France autour du Japon depuis très longtemps. On voit qu'il y a des choses qui arrivent autour de la Corée du Sud, qu'il y a des choses un petit peu autour des Philippines. Et Hong Kong, culinairement parlant, on connaît pas trop. Moi, j'y suis allé il y a 2 ans et je me suis pris une énorme claque en découvrant les cha cha teng. Est-ce que vous savez ce que c'est,
pas,
Caroline,
pas
les cha cha teng?
Pas du tout. Ni Déborah.
Absolument pas.
Ni Boris, ni Maurice Sacco.
Je n'ai pas goûté.
Alors, les cha cha teng, c'est pas un produit, c'est un lieu. C'est des salons de thé, en fait, à la hongkongaise, donc des cafés de quartier. Il y en a absolument partout dans Hong Kong. Ça existe depuis les années 50. Et c'est les Chinois de Hong Kong qui voulaient manger occidental, mais qui n'avaient pas les moyens d'aller dans ces restaurants-là. Et donc, ils ont ouvert des cantines, des cafés, où ils font de la fusion. Et donc, Davina Chang, qui est la co-autrice du livre, qui est de Hong Kong, elle a ouvert à Paris un cha-cha-teng moderne dans le 3e arrondissement de la capitale, qui s'appelle Bing Soot. Et dans son livre, ce qui est absolument formidable, c'est que c'est à la fois un reportage sur Hong Kong, un livre de recettes, Et donc, on explore un petit peu toutes ces spécialités qu'on connaît pas du tout en France. Par exemple, alors ça peut paraître bizarre, mais une soupe de macaroni avec des dés de jambon qui est absolument délicieuse. On va aller évidemment commencer par le thé au lait, froid ou chaud en fonction de la saison. Ils ont des espèces de scones qu'ils appellent pas comme ça, où ils mettent toujours un petit carré de beurre entre le scone et l'extérieur, ce qui fait qu'ils tirent un peu la langue. Ils ont un pain perdu qu'ils appellent pas comme ça. Avec voilà, on met du miel, on met du lait concentré. Il y a évidemment toujours ce petit carré de beurre. Bref, la cuisine hongkongaise, il faut absolument les découvrir. Et voilà, et ce livre permet une première approche de cette culture.
Chroniques urbaines et culinaires d'une ville entre tradition et modernité. Voilà le sous-titre de ce Hong Kong à la carte. Le deuxième livre dont vous vouliez nous parler, Ézéchiel, est un livre signé Jean-François Mallet, avec qui vous-même avez fait notamment votre pizza. Il s'intitule Vorace. C'est un panorama géant de la street food d'aujourd'hui.
Exactement. Alors Jean-François Mallet, vous le connaissez peut-être parce que c'est le créateur de Simplissime, une collection chez Hachette a vendu à, je crois, 5 millions d'exemplaires. Mais avant cette collection-là, Jean-François Mallet, c'est une des personnes qui m'a donné envie de faire ce métier. Il sillonnait le monde pour aller prendre en photo, donc cuisinier et photographe, la street food dans le monde entier. Et là, il s'est dit, il a deux filles adolescentes, Paula et Jeanne, il s'est dit, mais qu'est-ce que mangent mes filles et pourquoi je ne ferais pas un truc sur ma ville qui est Paris? Et donc, pendant des mois, il a pris près de 1000 photos dans ce livre chez La Martinière qui s'appelle Vorace. Et il explore toutes les cuisines un peu street food qui ont ouvert notamment depuis le Covid. Donc il y a du burger, il y a des raviolis sautés à la poêle, il y a énormément de choses. Il y a près de 100 adresses et une soixantaine de pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les restaurateurs ont du mal. En général, moi j'entends régulièrement, voilà, c'est moins 30% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Et ben là, il me disait, Jean-François, tous ces lieux que je suis allé voir, ils cartonnent, ils savent plus comment marcher, tellement ça fonctionne. Et surtout, ce qui est très différent des photos de communication un peu léchées qu'on trouve sur Instagram publiées par tous ces lieux, c'est qu'il est allé en cuisine à chaque fois, en demandant la permission. Et donc, on voit vraiment comment c'est cuisiner toutes ces recettes. Voilà, donc c'est une espèce de nouvelle façon de manger à la française et à Paris, et je suis complètement fan, en plus avec un petit prix, voilà, c'est 1000 photos, je crois que le livre est à 29,90 €.
Voilà, donc 29,90 € pour le Vorace aux éditions La Martinière.
Exactement.
Et 35 € quand même pour le Hong Kong à la carte, qui est un livre en dur avec un format un peu plus grand, même s'il n'est pas plus gros, chez Solar. Je vais juste te faire un petit tour de table, Déborah Dupont.
Ouais, le Vorace, qui est vraiment intéressant, c'est que c'est apporter le monde entier à Paris. On a effectivement plein d'adresses, on voit pas forcément comment les trouver. Et on n'est pas sur un guide parce qu'on est quand même sur un gros format, mais en fait il nous donne l'accès. Donc j'ai trouvé que l'angle était intéressant.
Bon, c'est déjà pas mal. Un angle intéressant, oui, c'est déjà pas mal. Oui. Avec un vrai coup de cœur de la part d'Ézéchiel Zera. Léa Varin, votre coup de cœur de l'année, c'est un livre de Laura Lafont Cadillac. Aimer manger à 7.
Oui, alors Aimer manger, c'est un projet en fait qui commence en 2019 lors d'une résidence dans le Tarn où Laura Lafont Cadillac demande aux habitants d'une vallée de l'inviter en cuisine pour parler d'amour. Elle a pour objectif de dresser un certain portrait de la France un petit peu à travers l'amour en cuisine. Et ce que j'ai surtout trouvé intéressant, c'est que ces livres montrent vraiment la diversité des foyers à travers les recettes choisies. En gros, on est dans la cuisine un peu tous ensemble avec eux. C'est comme une discussion avec un proche qui vous invite à manger, où on parle de recettes et surtout de plein d'autres choses. Donc dans ces livres, on n'aime pas trop les temps de cuisson, on n'aime pas trop les quantités non plus. Par contre, on aime beaucoup parler, on aime beaucoup se confier et ça, je crois que c'est ce qui m'a surtout beaucoup plu. Je me concentre un peu plus sur Aimer manger à 7 parce que c'est le dernier déjà, mais aussi parce que ça nous fait un petit peu de soleil en ce dimanche.
Et on en a besoin.
Voilà, exactement. Et puis, surtout dans ce livre, on a des personnages. Alors ça, c'est peut-être le Sud qui fait ça aussi. On a par exemple Amara, qui est assistante maternelle depuis plus de 20 ans. Elle nous donne sa recette de chorba en nous racontant sa vie en Algérie, puis en France. Et puis mon petit préféré, c'est Jean-Louis quand même. Lui, il est retraité. Il est ancien producteur de coquillages. C'est un peu le Sétois par excellence. Il est né dans le quartier des pêcheurs et il nous parle des produits de la mer et de ses moments entre copains où ça se chambre, ça discute politique, un peu tout ça. Donc je pourrais vous en parler des heures, mais en gros, j'ai été touchée par ces petits bouts de vie et d'intimité, par les photos aussi, puisque Laura Lafoncadiac est photographe, donc elles sont vraiment magnifiques, et par les gestes de cuisine couplés aux gestes de tendresse, mais surtout par les petites phrases qui encadrent le texte, et je vous donne donc deux petits exemples. Allez. Quand même, parce que ça va vous parler, je pense. Tu ne trouveras pas des morceaux de poulpe comme ça dans les tielles qu'on achète, ça c'est la première. Et la deuxième, moi je l'aime comme ça, mais tu l'assaisonnes comme tu veux, donc c'est tout de suite assez parlant. Et j'ajoute juste que des ouvrages sont des éditions limitées, 20 € par exemplaire, et la collection comporte 5 livres pour le moment, mais le projet est toujours en cours.
Magnifique, puisque vous parlez de photos, j'enchaîne avec un drôle de petit livre de photographie, Bon baiser, bon appétit, poème culinaire à la carte aux éditions de l'Épure par Émilie Bernard. Alors c'est tout à la fois un recueil de poésie, une collection de cartes postales, un peu dommage d'ailleurs qu'on puisse pas les détacher, c'est le seul regret que j'ai, mais en tous les cas Martine Parr, paix à son âme, n'aurait pas renié ces photos tant elles sont kitschissimes. C'est aussi un inventaire culinaire régional complètement rétro, soigneusement réuni par Mathieu Nicole et édité par une maison dont on suit régulièrement le travail, les éditions de l'Épure. Donc, et alors là on est au croisement de la gastronomie locale, de l'imagerie populaire, de la poésie de comptoir, avec ses cartes postales tout droit sorties des années 60-70, à l'époque, il paraît, où Émilie Bernard était omniprésente dans les foyers français, même si elle a disparu des anthologies. J'ai pas le temps de vous lire quelques extraits, mais il faut trouver ce livre dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas, Déborah Dupont-Daguet. C'est 167 recettes, hein, quand même, et c'est 25 €. Et puis un voyage gourmand. Déborah, vous étiez membre du jury du prix du livre gourmand, donc vous aviez remis le prix à Cuisine d'Afrique. Afrique du Nord, de Farah Kerram, chez Flammarion, on s'en souvient. Mais il y en avait un autre qui était sélectionné par ce jury, c'était French Riviera, du chef Nicolas Saintès, qui nous balade sur la Côte d'Azur, de Cassis à Menton, en 100 recettes. Rien que l'ouvrir, c'est prendre un rayon de soleil, je vous suis Léa, et de cuisine méditerranéenne, c'est 100 recettes accessibles. En plus, c'est chez Hachette Cuisine, et il vous en coûtera la modique somme de 40 €. Midi 17 sur France Culture.
Ici, c'est la pizza marseillaise, c'est pas la napolitaine, c'est pas la pizza que tu trouveras ailleurs. C'est une pizza anchois au fromage, tout simplement, la fameuse moitié-moitié. Ben là, on est dans un vieil endroit familial, c'est une histoire de trois générations, je suis la troisième. Ça s'appelle chez Étienne à Marseille. C'est qui ?
C'est Canadien.
Enchanté, bienvenue à Marseille, tu vois, il est Canadien, t'imagines ?
Et pourquoi avoir choisi justement la moitié anchois, moitié fromage ?
Mais j'étais pas né, moi, j'en sais rien, moi. Parce que ça, c'est typique local, hein, chérie. C'est vraiment la pizza marseillaise, la moitié-moitié, anchois fromage. C'est la pizza marseillaise.
Ça, c'est pour vous, Ezekiel Zera. Une véritable institution marseillaise, cette pizza moitié-moitié qui se trouve être dans votre livre à vous. Histoire au pluriel, reportage au pluriel, recette au pluriel. Un peu le pavé, tout ce qu'il faut savoir, tout, en fait, sur la pizza. C'est ça, votre idée ?
Oui, c'était de faire une encyclopédie moderne sur un plat un peu ultime, un plat total. Il n'y avait pas, il y avait plein de livres de recettes, mais pas de livres sur la culture pizza. Donc voilà, c'était l'idée de se dire, on va faire ce qui n'existe pas. Et puis voilà, moi j'habite à Marseille, je suis né à Marseille, même si ça ne s'entend pas. Et Marseille, c'est la capitale...
Quoique.
Je prends l'accent avec vous. Non, Marseille, c'est la capitale française de la pizza. Elle est arrivée, la pizza en France, via Marseille. Les premières pizzerias, c'est évidemment ici. On a inventé le camion pizza. Donc voilà, c'était rendre hommage et à la ville, et puis au monde entier, parce qu'on voyage à Buenos Aires, à New York, à São Paulo, un peu partout pour raconter ce plat si spécial.
Oui, il est fait quand même, ce livre, c'est un gros livre, hein, dur, assez lourd, je ne l'ai pas pesé, mais je crois que c'est le plus lourd de tous ceux.
Il fait 2 kilos.
Voilà, c'est tout le savoir-faire, c'est des reportages aux quatre coins du monde. D'ailleurs, je crois que pour faire ce livre, vous avez fait un road trip de 15 jours en Italie, bien sûr quand même, avec un de vos enfants, je crois.
Et vous n'avez
fait
mon fils.
Avec votre fils, et vous n'avez fait qu'engloutir des pizzas.
Matin, midi et soir, de Palerme à Gênes. Voilà, et on apprend plein de choses. Les Génois, ils trempent leur focaccia dans le cappuccino le matin. Les, il y a une ville de 50 000 habitants quand même dans les Marches, où le matin et au bar à l'apéro, ces petites pizzettes avec base de sauce tomate, jusqu'à là tout va bien, morceaux d'œuf dur, là ça va un peu moins bien, et puis après serpentin de mayonnaise.
Oula,
voilà. Donc on aime bien quand les Italiens font un peu les ayatollahs, les conservateurs de la pizza, ils le sont pas du tout en réalité.
Ouais, alors l'histoire de la pizza, c'est quand même en Italie évidemment, puisqu'elle est née à Naples au XVIIIe siècle, mais vous racontez bien dans votre livre, Ezekiel Zera, que c'est aux États-Unis au XIXe et plus encore bien sûr au XXe que la pizza a pris sa grande popularité et sa grande démocratisation. Ce qui est bien aussi avec votre ouvrage, c'est que vous répondez à des questions que tout le monde se pose, qui sont absolument indispensables. Par exemple, pourquoi la pizza est ronde? Pourquoi elle est coupée en pointe triangulaire? Et pourquoi, quand elle est livrée dans une boîte carrée? Bon, bref, tout est dans pizza. Pizza qui est édité chez Flammarion et il nous en coûtera combien? Je le vois pas. C'est 45 euros.
Mais c'est un gros livre de 2 kilos. Voilà, exactement.
Un dernier coup de cœur pour vous, Déborah Dupont-Daguet. Alors vraiment, le choix entre, deux salles d'ambiance. Les nazis à table, un essai. Bon, pour Noël, je suis pas sûre. Peut-être l'autre. Allez.
Alors oui, non. Les nazis à table, effectivement, ça peut mettre de l'ambiance. C'est aux éditions du Cherche Midi. Non, c'est vraiment un ouvrage passionnant. Donc n'hésitez pas.
Antoine Dreyfus.
Voilà, c'est une enquête absolument inédite. C'est très bien documenté. Et sinon, c'est pas un livre. Je fais du hors-sujet. Ce sont les mots fléchés de Jujubier aux éditions Le Robert et les mots fléchés spécial gastronomie française. Donc, alors pourquoi je fais du hors-sujet? En fait, c'est une planche de mots croisés à ouvrir.
C'est en train de l'ouvrir. Léa, il faut aider Déborah. C'est une carte de France.
Qui fait donc 78 cm sur 90. Vous visualisez quand même la taille. Donc, c'est une carte de France avec chaque région bien identifiée et des mots fléchés géants. Donc, 2334 cases. 780 définitions, et sur les 780, il y en a une large partie qui concerne la gastronomie, donc par région. Donc, exemple, si je vous dis...
Restez en face du micro,
si
on vous entend.
Si je vous dis le plat du pauvre originaire des Ardennes...
Maury.
Je ne l'ai pas, mais il doit y avoir des sangliers là-dedans.
Ezekiel. Ezekiel, vous l'avez?
Non, je ne l'ai pas.
Moi non plus. Léa, vous l'avez?
Non plus.
Bon.
Eh bien, vous chercherez autour de la table de Noël.
Enfin, c'est toute la journée.
Bon, merci. C'est donc les mots fléchés de la gastronomie par Jujubier aux éditions Le Robert. Le petit répertoire des saveurs, Maurice Acco, avant votre chronique. Ouais. Et c'est quoi le répertoire des saveurs?
Alors, c'est un tout petit livre qui m'a beaucoup aidé, moi, au tout début de ma carrière, quand j'ai dû créer des plats tout seul et je savais pas comment créer un accord de goût original ou un truc qui tienne vraiment debout de moi-même. Et donc, c'est un petit livre qui fonctionne un peu sous la forme d'un camembert, où on va avoir des goûts qui vont être opposés, comme sulfuré, pimenté, végétal, et ça donne des accords en fait de goût. Donc on peut aller dans fromage bleu et trouver fromage bleu et poisson. Et du coup, on nous explique une recette de fromage bleu et poisson qui fonctionne, et ça nous donne des pistes en fait. Et après, derrière, c'est à nous-mêmes de dire, bon, du bar et du roquefort, est-ce que ça marche? Est-ce que ça tient debout? Et c'est bien parce que ça lance des pistes, et ça m'a beaucoup aidé, moi, au début, sur la création.
Déborah,
il est malheureusement épuisé, donc en ce moment, il est en rupture. Il faut absolument que l'éditeur le réimprime, car c'est vrai que ça fait 10 ans à peu près qu'il existe, et c'est un énorme succès.
Ah non, à bon entendeur, salut. Il faut absolument le réimprimer.
Absolument, il nous en faut.
Ah oui, alors en même temps, on en a déjà beaucoup. Et puis, je vais même en rajouter, puisqu'il me reste encore une petite minute. Un livre de photographe encore, une histoire de gastronomie et d'amitié, à la fois livre et restaurant. Il s'agit de L'Intangible. C'est le nom d'un restaurant familial à Lampeau, dans le Tarn, lancé par un jeune couple, Emma Destruel et Antoine Salier. Ils sont passés par les maisons d'Alain Ducasse, qui préface ce livre avec aussi une préface de Manon Fleury, qu'on aime beaucoup ici à la grande... Non, pas à la grande table, j'ai failli dire aux bonnes choses. C'est un livre de photos sur eux, sur le lieu, dans le Tarn. Et c'est aussi un... C'est-à-dire, à vrai dire, plus un livre d'art qui comprend des fragments d'histoire et quelques recettes qu'un livre de cuisine à proprement parler. Il en ressort une atmosphère particulière. On voit bien là qu'on est aussi dans les atmosphères différentes, découpées en six temps comme un repas à l'intangible que je ne connais pas, je dois le préciser, avec des recettes de saison à la fin. C'est chez Four Eyes édition et ça coûte 55€. Et puis un tout petit bonus quand même pour soutenir les Restos du Cœur, un livre comme chaque année par les Restos du Cœur et pour les Restos du Cœur, 13 à table. Un livre acheté, c'est 5 repas distribués. 13 à table, c'est 13 nouvelles inédites écrites par un certain nombre d'écrivains, Philippe Besson, Sandrine Colette, Lorraine Fouché, Alexandra Lapierre, etc. 13 à table avec des illustrations de Catherine Meurice, c'est ce qu'ils font avec les Restos du Cœur depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, ça a permis de distribuer près de 8,4 millions de repas par les Restos du Cœur et pour les personnes en situation de précarité. Et bien il est 12h25 avec tout ça, 12h25 c'est l'heure de retrouver Maurice Sacco qui va nous parler d'un livre. Et quel livre ?
Et quel livre, ouais. J'avais envie de vous parler d'un livre qui est littéralement devenu un indispensable de la bibliothèque de tous les cuisiniers modernes. Ce livre, c'est le guide de la fermentation du Noma, coécrit par René Redzepi et David Zilber, respectivement chef et ex-chef de la fermentation de ce restaurant norvégien, considéré à juste titre comme l'un des meilleurs et plus innovants du monde. Comme son nom l'indique, ce livre traite de la fermentation. Le point fort est sa capacité à traiter de sujets complexes et sensibles avec une précision scientifique et une multitude d'applications possibles. La fermentation est une technique utilisée depuis des millénaires, en premier lieu dans un souci de conservation des surplus, puis à notre époque dans l'idée d'aller chercher de nouveaux goûts, ainsi qu'une logique de valorisation des déchets. La fermentation s'oppose à la conservation, car si dans la conservation on cherche à figer l'état d'un produit via une inversion dans le vinaigre ou une saumure, la fermentation cherche à transformer le goût de celui-ci. Mais les deux visent un objectif commun, qui est de prolonger la durée de vie d'un produit. Le principe de la fermentation réside dans une transformation des produits, via l'action des bactéries, d'enzymes ou de champignons. Nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais nous consommons des produits fermentés quotidiennement, avec des produits tels que le yaourt, le fromage ou encore le vin. Pour vous citer quelques exemples de techniques présentes dans le livre, on peut parler des kombucha, très à la mode en ce moment, qui se font via l'action d'un ensemble de bactéries que l'on nomme la mère de kombucha, ou SCOBY, que l'on va faire tremper dans un liquide contenant une infusion sucrée. Au bout de quelques jours, le champignon va consommer le sucre et le transformer en alcool, puis transformer de l'alcool en acide acétique qu'on retrouve dans le vinaigre. J'en avais déjà parlé dans une précédente chronique. L'avantage de cette recette...
Vous avez bonne mémoire.
L'acide acétique, faut pas oublier. L'avantage de cette recette, c'est qu'on peut aromatiser le liquide avec à peu près tout ce qui nous passe par la tête. Il y a la lactofermentation, présente partout dans le monde sous différentes formes, qui consiste à maîtriser la fermentation d'un produit via l'ajout de sel. L'un des exemples les plus parlants serait le chou de la choucroute. Je pourrais aussi vous parler des miso, shoyu ou garum, qui sont le fruit d'un des produits les plus indispensables de la gastronomie japonaise, le koji. Mais je pense surtout que le succès de ce livre est dû au fait qu'il répond exactement à ce qu'un cuisinier attend d'un livre de cuisine. C'est-à-dire une source de connaissances fiables, un savoir-faire éprouvé, une liberté d'application. Et je suis assez sensible à l'idée que parfois les meilleures idées pour demain se trouvent dans le passé. Le savoir-faire moderne associé aux connaissances ancestrales donne vie à plein de nouvelles possibilités. Donc si vous avez un cuisinier dans votre entourage, c'est l'idée de cadeau parfaite. Mais il y a de fortes chances qu'il soit déjà en sa possession. Bon dimanche.
Merci Maurice, je ne vais pas vous interrompre, mais je crois que votre langue a fourché. Vous avez dit que le Noma, c'était un restaurant norvégien. Il me semble que c'est danois.
Danois, désolé. Ouais.
Mais il n'y a pas de problème.
Copenhague.
Voilà. Bon. Merci infiniment à tous les trois, à tous les quatre, avec Léa Varin, Maurice Sacco, Déborah Dupont-Daguet, Léa Varin, des bonnes choses, et Ezekiel Zera. Bien entendu, toutes les informations, les adresses et surtout là les références de nos livres sont à retrouver sur franceculture.fr grâce à Léa. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa et Jean-Christophe Francis à la réalisation, à la technique. Aujourd'hui c'était Dalia. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.